Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous dans Libre à vous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. OpenStreetMap est en quelque sorte le Wikipédia de la cartographie. La Fédération des professionnels d'OpenStreetMap représente les intérêts des entreprises françaises proposant des prestations liées à OpenStreetMap, c'est-à-dire ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme le reconditionnement pour toutes et tous, et aussi l'intérêt de contribuer à des projets libres, nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Notre émission est diffusée depuis 2018 sur les ondes de Radio Cause Commune. Cette diffusion permet de toucher un très large public, dont vous qui nous écoutez sur la bande FM. La Radio Cause Commune traverse une période difficile et nous avons besoin de vous. Cause Commune fonctionne grâce à l'engagement de bénévoles sans personne salariée, mais à bien sûr des frais de fonctionnement. Une subvention qui tarde à arriver, la seule que la radio sollicite du ministère de la Culture via le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. D'autres subventions, locales et régionales, que la radio ne va pas chercher pour garder sa liberté de parole, sa liberté éditoriale. Une augmentation progressive des charges ces deux dernières années a eu raison de la trésorerie de la radio. Cause Commune fait donc face actuellement à de gros soucis pour payer les factures de fin d'année et de début d'année 2024. Nous vous encourageons, si vous le pouvez, à faire un don pour permettre à Radio Cause Commune de continuer à exister et pour nous permettre aussi de continuer à proposer notre émission Libre à vous auprès d'un large public. Si vous nous écoutez via la bande FM ou le DAB+, aidez Cause Commune à passer ce cap difficile et à faire vivre votre radio locale. Pour nous aider, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur le bon don d'appel à don. Nous sommes mardi 14 novembre 2023. Nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion à un podcast. J'ai le grand honneur que l'émission du jour soit réalisée par la présidente de l'April en personne, Magali Garnero. Salut Mag.
Salut à tous.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Nous allons commencer par la rediffusion d'une chronique d'Antanac sur le reconditionnement pour toutes et tous. On se retrouve en direct juste après. Que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac. Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et ou des pensées mises en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Bonjour Isa.
Bonjour.
Alors quel est le thème de la chronique du jour?
Voilà, ça c'est une private joke, parce que Fred il trouve que je dis pas assez vite dans le mois, qu'est-ce que ça va être mon sujet. Mais non, mais mon sujet là, c'est Fred, c'est le reconditionnement pour tous.
Eh ben, nous t'écoutons.
En fait, pourquoi? Mais parce que on a été invité. C'est une grande première. On a été invité par la mairie de Paris dans le cadre d'un groupe de travail Paris Action Climat Biodiversité. C'est beau, hein? Et notamment par la direction de ce qu'ils appellent donc la transition écologique. Définitivement, transition écologique, c'est un terme que je n'aime pas du tout. Je ne le comprends pas bien, parce que si on était dans le cadre d'une transition, ça se saurait. Je vois pas transition de quoi vers quoi. Mais en tout cas, quand Hopkins avait lancé ce terme, je comprends, en 2005, il avait peut-être quelque chose à en dire particulièrement, puis lui, il était sur la permaculture. Donc bref, mais là, la transition écologique, au sens large, je vois pas. Enfin, ça fait rien. On va pas être bégueule, on était invité, on est venu. Et j'étais d'autant plus contente de ça qu'il y avait avec nous, et aux côtés donc de Anne-Sophie Holstein et Fanny Cohen de la mairie de Paris, il y avait quelqu'un que je pense ici, les auditoristes de l'April le connaissent bien, Samuel Sauvage de HOP, halte à l'obsolescence programmée, ainsi que d'autres gens donc dont je parlerai après d'Emmaüs Connect. Et alors c'était bien parce que donc Samuel Sauvage il a repris un certain nombre de faits très très parlants et marquants de ces questions, et notamment la question du tonnage d'extraction des ressources dans le monde, l'évolution depuis 1970 autour de 4 fois. Entre 1970 et maintenant, 2020-2023. Il a reposé la question des ressources nécessaires à la fabrication d'un ordinateur. Juste quelques chiffres comme ça, parce que c'est toujours sympathique de s'en rappeler régulièrement. 1,5 tonne d'eau, 800 kg de matières premières, 240 kg de combustible fossile et 22 kg de produits chimiques. Ça fait bizarre, hein? Ben oui. Et ensuite, les émissions de carbone, toujours en hausse malgré les belles paroles et les promesses ici ou là, avec une orientation de 3 fois plus qu'en 2050, de ce que celle de 2020. Si on ne fait rien d'autre. Alors c'est peut-être de ça qu'ils veulent parler quand ils parlent de la transition, mais je sais pas où est le début. Et ensuite, il a recentré sur les différents réflexes potentiels de consommation plus durable, tels que l'allongement de la durée d'utilisation des matériels, les produits du numérique, l'achat, l'usage de matériel reconditionné. Voilà, et c'est là que du coup nous intervenions juste après lui. Et en fait, non, j'avais demandé que ça soit Emmaüs Connect qui parle avant nous. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, Emmaüs Connect a donc commencé à parler de leur travail, notamment de collecte. Parce qu'en fait, Emmaüs Connect sont des font partie du groupe Emmaüs, et donc ils ne sont pas exactement des reconditionneurs, puisqu'ils sous-traitent le reconditionnement. Donc ils font, eux, une collecte, ils ont une logistique phénoménale, ils sont très doués pour ça, ils ont tous les contacts avec les entreprises, etc. Et ensuite, il y a deux structures d'insertion, qui ont vocation à donc bénéficier d'emplois aidés, Ateliers Sans Frontières et Écoder, qui sont par ailleurs tous deux membres du réseau REFIS. Et donc, Emmaüs Connect sous-traite vers eux toutes les opérations de reconditionnement. Du coup, c'était assez intéressant de pouvoir indiquer, et c'est pour ça que mon titre, c'était reconditionnement pour tout le monde, en fait, et pas simplement, parce que définitivement, en Tanax, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on arrête de penser que le reconditionnement, c'est que pour les pauvres, et que ça serait uniquement pour ceux qui n'ont pas d'argent, pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, pour ceux qui, en attendant, ceux et celles qui, en attendant, vont d'abord avoir un matériel reconditionné, puis plus tard, quand ils seront riches, ils vont s'acheter un vrai ordinateur. Tout ça est déprimant, dépitant, et donc du coup, je suis vraiment contente de pouvoir marquer, en fait, si ce n'est la différence, en tout cas, ce point-là par rapport à Emmaüs Connect et aux autres. J'ai posé la question, bien sûr, on m'a pas répondu de... Tous les gens prenaient, enfin pas tous, mais une bonne moitié de la salle quand même là, prenaient des notes sur les ordinateurs. Je posais la question de sens des ordinateurs reconditionnés que vous avez tous là, membres de ce groupe de travail sur la transition. Bon, on m'a pas répondu, on a rigolé, mais on m'a pas répondu. En tout cas, ça me permettait de reparler de ça, ça me permettait également de reparler de la question du droit d'usage. Puisque en Tanac, on est, peut-être je radote hein, pour celles et ceux qui ont déjà écouté, mais en tout cas, le droit d'usage pour nous, c'est vraiment une chose importante qui est d'indiquer que on n'a pas obligatoirement sur cette planète besoin d'être propriétaire de ce qu'on utilise et qu'on peut partager les choses momentanément. Ben, il est comme s'il était à moi, mais qu'est-ce que ce « à moi » veut dire? On ne sait pas trop, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit d'autre qu'il est à ma disposition, en fait, quelque chose comme ça, où je peux l'avoir quand j'en ai besoin, ou bref. Et donc du coup, quand on confie un ordinateur, je pense que de plus en plus maintenant, les gens le comprennent bien, cette notion-là. Et on commence à voir des personnes qui viennent et qui nous redisent, ben voilà, ça c'était bien pour la période que je viens de vivre, puis là maintenant j'ai besoin d'autre chose, est-ce que je pourrais avoir un autre ordinateur? On dit oui, super, on reprend celui-là, on donne un autre, parce qu'ils sont passés, je sais pas moi, être étudiant, donc il faut qu'ils soient de plus léger, quelque chose de plus rapide, ou que sais-je, quelles que soient les raisons des personnes. Voilà, et donc c'est plutôt pas mal. À la fois on était content d'être reçu, parce que on est quand même une toute petite structure, hein, Tanac, donc on était content d'être reçu par ces... par tout ce monde-là, puis d'avoir l'opportunité, l'occasion de raconter les choses qui nous importent là-dessus. Et donc, en tout cas, ce que j'ai appris également, c'est que la mairie de Paris a pour projet d'ouvrir, ou en tout cas de soutenir, j'ai pas trop bien compris, l'ouverture d'une recyclerie numérique à Paris. Je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que ça va être, mais il y a 4 grands projets, ont-ils dit, dont une recyclerie numérique. Donc on va voir. En tout cas, j'en profite ici là pour finir cette chronique avec le fait que si vous connaissez, auditeurice, des structures qui font un petit peu dans leur coin de reconditionnement, pour nous ce qui serait important là, c'est que le réseau REFIS s'agrandisse. On reçoit de plus en plus de matériel en nombre important, et plus on peut le partager, le mutualiser, mieux on se portera.
Voilà. Rappelle-nous ce que veut dire le réseau REFIS.
Ah oui, ça c'est une bonne remarque. Alors le réseau REFIS, c'est le réemploi francilien pour une informatique solidaire. On a créé ça donc en 2021. En Tanac, il y a 12 structures désormais.
Ben écoute, merci. Tu as cité Écoder, qui est une des structures qui participe au réseau REFIS, et donc l'ordinateur reconditionné. Je précise que les ordinateurs de la prime, notamment nos ordinateurs portables, viennent de chez Écoder. On les a achetés chez Écoder, celui qui est en face de moi, celui qui est utilisé par Isabella. Et que peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, il y aura des annonces intéressantes autour de Écoder et de préinstallation de laptop avec du logiciel libre
oui,
par défaut.
Ça c'est la bonne nouvelle.
Ce qui n'est pas encore le cas, mais c'est pas encore confirmé, donc en tout cas voilà.
Merci.
Donc je rappelle qu'en Tanac, vous êtes nos voisines, au 18 rue Bernard Dimet, à Radio Cause Commune, on est au 22, et le site d'Antanac, c'est antanac.com, Antanac avec un K.
Absolument, merci.
Alors,
beaucoup.
Je pense qu'on se retrouvera probablement plutôt en septembre pour la prochaine chronique, parce qu'on va finir fin juin, début juillet, libre à vous. En tout cas, c'était un grand plaisir encore d'avoir cette année ta présence. Et,
merci.
Avec grand plaisir, on te retrouvera donc début septembre, ou courant septembre, pour la prochaine chronique sur Antanac. Merci Isa.
Beaucoup.
Je te souhaite une belle fin de journée.
Merci, vous aussi.
Nous sommes de retour en direct. Donc cette chronique a été diffusée il y a quelques mois et concernant donc Ecoder, pour l'instant il n'y a pas encore de système préinstallé logiciel libre chez Ecoder, mais ça viendra sans doute à un moment ou un autre. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap. Je vous rappelle que Cause Commune fait actuellement face à des problèmes financiers, au point que la radio n'est pas à l'abri d'un défaut de paiement dans les semaines qui viennent et donc d'une coupure de l'antenne. Pour nous aider, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur le bandeau d'appel à don. Vous pouvez faire ça tout en écoutant la pause musicale à venir. Nous allons écouter Booth Street Psychosis par Tom Woodward. On se retrouve dans environ 2 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Karen's building castles out of mud. Amongst the tradesmen in their high-vis clothes, their blood's making stains on these rusty chains, and we still don't know which way the crosswinds blow. But don't be scared, it's all a show. Jack Johnson's bootlace wasn't fair, feeding fat to the livers of the goosey goose. Oh yeah, something's pain is another's gain, but we can't be sure just what's the reason for. Are we scared? We want it all, we want it all. We want it all. We want, we want it all. Jill makes love with dinosaurs in the middle of a false flag revolution. Whistles blow, I got visual snow, when I just don't know where do all the goers go. I just wish I would know, stay so low. I want just to know.
Nous venons d'écouter Booth Street Psychosis par Tom Woodward, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet principal. Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui porte sur la Fédération des pros d'OSM, OpenStreetMap, le Wikipédia de la cartographie. Fédération qui a été officiellement lancée il y a un an, novembre 2022, mais qui a peut-être été créée quelques mois avant. Nos invités du jour, Florian Lenné, qui est avec moi en studio. Bonjour Florian.
Bonjour.
Et normalement, nous avons Jean-Christophe Becquet à distance. Bonjour Jean-Christophe.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors, avant de commencer de vous laisser la parole de présentation, je voulais quand même préciser qu'initialement, c'était Cécile Guégan de la Fédération qui devait intervenir, mais elle ne peut pas. Donc, merci à Jean-Christophe d'avoir pris le temps de la remplacer aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à participer à notre conversation, hein, soit par téléphone au 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46, ou sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, ou nouveauté, expérimentation, vous pouvez aussi utiliser le hashtag libre à vous, dièse libre à vous, sur Mastodon, ou nous envoyer un message sur notre compte Mastodon, april.org. Alors, pour la première question, tout simplement, traditionnelle de présentation, on va commencer par Florian Lenné. Florian?
Moi, je m'appelle Florian Lénès et je suis membre de l'April depuis 2007 déjà. Ça, c'est quelque chose première chose à noter. Et par la suite, un peu, je me suis impliqué dans OpenStreetMap, donc je suis contributeur assidu, ce qui m'a amené à prendre quelques responsabilités, et en particulier, je suis président de la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap. Et puis, à côté de ça, j'ai monté une entreprise qui s'appelle JungleBus, qui crée des données de mobilité dans OpenStreetMap.
D'accord. Alors déjà, je m'excuse sur la prononciation du nom. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, donc j'avais oublié la prononciation de ton nom, mais c'est noté. Jean-Christophe Becquet.
Oui, bah du coup, je suis vice-président de l'April, très impliqué dans l'association depuis à peine plus longtemps que Florian, puisque moi, c'est 2006. Et je suis également le directeur et le fondateur d'Abitux, qui est une entreprise spécialisée dans le conseil sur le logiciel libre et la donnée ouverte, qui fêtera ses 20 ans l'année prochaine.
Ben merci Jean-Christophe, et je vous remercie. Je remercie tous les membres de l'April, et notamment les membres effectivement avec une telle fidélité, ça fait plaisir. Alors, donc le sujet du jour, c'est la Fédération des professionnels d'OSM, OpenStreetMap. Bon, on va commencer quand même si on a déjà abordé ce sujet dans l'émission, mais à faire peut-être un petit peu un rappel sur c'est quoi OpenStreetMap et pourquoi est-ce important. J'ai introduit en disant que c'était le Wikipédia de la cartographie. Donc, peut-être Florian, tu veux commencer sur OpenStreetMap, la présentation générale?
Ouais, c'est vrai que il y a des personnes qui sont déjà venues parler dans cette émission. Le 11 juin 2019, il y avait des membres de l'association OpenStreetMap France qui étaient venus présenter un peu le projet. Comparer OpenStreetMap comme un Wikipédia des cartes, je pense que c'est hyper pertinent. OpenStreetMap, c'est un projet cartographique mondial, comme Wikipédia est un projet encyclopédique mondial. Donc c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, hein, le monde, la cartographie du monde, le monde change, donc on continue à cartographier. Et puis les données sont open data, donc elles sont libres d'utilisation pour tout le monde. Tout est basé sur l'infrastructure d'OpenStreetMap est basée sur des logiciels libres. Et puis c'est collaboratif, évidemment. C'est un wiki, donc c'est une carte avec un bouton modifié.
D'accord. Donc comme pour les personnes qui connaissent un petit peu Wikipédia, on peut à la fois donc consulter le site cartographique, comme on peut consulter Wikipédia les articles, mais en plus il y a un bouton édition qui permet de rajouter des données, d'enrichir cette carte du monde comme on peut enrichir une encyclopédie collaborative qu'est Wikipédia.
C'est ça, tout à fait. Et donc ça marche très bien. Hein. Ça fait depuis 2004 que c'est lancé. Moi je contribue depuis 2009 et je suis hyper passionné. C'est vraiment quelque chose, un projet sans fin dans lequel il y a des personnes qu'on rencontre qui sont absolument extraordinaires et avec qui on construit des projets pour cartographier le monde ensemble.
Jean-Christophe, est-ce qu'il faut être une personne un peu experte pour contribuer à OpenStreetMap?
Alors non, c'est justement une des particularités de la communauté des contributeurs et des contributeurs de OpenStreetMap, c'est que c'est une communauté qui est extrêmement ouverte. C'est un projet qui est extrêmement facile d'accès. Donc il y a aujourd'hui de nombreux groupes locaux de contributeurs et contributrices à OpenStreetMap qui se réunissent régulièrement dans pas mal de villes. Il y a aussi des événements qui sont organisés qu'on appelle des cartoparties, qui sont des invitations à venir contribuer ensemble à OpenStreetMap dans une ambiance conviviale. Et je pense que c'est vraiment une des caractéristiques d'OpenStreetMap qu'il faut mettre en avant, c'est son ouverture. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien que plus de 10 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices se sont créés un compte pour contribuer à OpenStreetMap. C'est bien la preuve que ce projet est extrêmement accessible et ouvert.
D'accord. Et alors, tout à l'heure, Florian a parlé de l'émission de juin 2019. Donc, c'était l'émission, je cherche l'émission 29 de Libre à vous. Donc, c'était il y a quand même quelques temps déjà. Et donc, je renvoie les personnes qui veulent en savoir plus sur OpenStreetMap à écouter cette émission ou à lire la transcription. Et donc, comme c'est l'émission 29, pour la retrouver, c'est facile. C'est sur le site web libreavoue.org/29. C'est en effet que chaque numéro d'émission, elle permet d'accéder directement. Quand même, peut-être, petite question, quand même, pour continuer rapidement sur OpenStreetMap. Donc il y a un site web, mais il y a aussi plein d'applications qui existent, notamment par exemple, alors je pense par exemple à Street Complete, qui est une application sur téléphone mobile qui par exemple permet de compléter très facilement des informations manquantes quand on se balade dans la rue. Est-ce que l'un de vous deux veut en parler juste en 30 secondes, Florian?
Ouais, je peux parler de ça. Au début, tu as dit, il y a un site internet, et je veux revenir là-dessus. En fait, OpenStreetMap, c'est une base de données cartographiques. Ouais. Donc, c'est les données avant tout. Le site OpenStreetMap.org est un site qui permet de voir les données et qui permet de les modifier directement. Donc, c'est hyper utile. Mais c'est un des outils parmi d'autres. Et en effet, il y a plein d'applications mobiles très diverses et très variées. Et Street Complete est l'outil par excellence pour les débutants. C'est vraiment très simple. C'est des quêtes. Donc, dans la rue, il suffit de se balader et de regarder le monde autour de soi. Et l'application demande de compléter des données déjà existantes. Donc, c'est du type, y a-t-il un abri sur cet arrêt de bus? Est-ce que ce passage piéton est accessible aux personnes touchées de handicap? Voilà, c'est des questions comme ça. Donc, c'est très, très simple. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques.
Ou des horaires de magasin, etc. Voilà. OK. Jean-Christophe, est-ce que tu veux faire une dernière intervention sur la partie introductive qui est volontairement courte, hein, parce que je renvoie les personnes à l'émission précédente, hein, et à découvrir aussi OpenStreetMap. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Jean-Christophe ?
Oui, juste souligner vraiment le dynamisme de cette communauté, peut-être en donnant un chiffre. Aujourd'hui, OpenStreetMap, c'est 50 contributions par seconde partout dans le monde, c'est-à-dire 50 fois par seconde, un contributeur, une contributrice vient ajouter une information, corriger une information, mettre à jour une donnée, et ça, jour et nuit, partout dans le monde. Peut-être dire aussi que en France, la communauté est très dynamique, puisque la communauté des contributeurs et contributrices françaises est troisième après les USA et l'Allemagne.
Oh, bon, on est sur le podium, c'est bien. Troisième marche, ouais. Super. Bah écoute, merci en tout cas. Donc voilà, ça c'était la présentation d'OpenStreetMap, donc le Wikipédia de la cartographie. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur libravou.org/29 pour retrouver l'émission qui était consacrée en 2019 à OpenStreetMap. Alors, je crois de mémoire, mais je fais peut-être une erreur, j'ai pas vérifié, j'aurais dû, c'était avec Christian Kest et Noémie Lehubi. Je crois bien que Florian Lénès connaît bien, vu que c'est son associé à Jungle Bus. Ok, donc on comprend ce que c'est qu'OpenStreetMap. Et il y a un an est annoncé le lancement d'une fédération des professionnels d'OpenStreetMap, donc elle a peut-être été créée un peu avant. Donc justement, c'est quoi l'historique qui a mené à la création de cette fédération? Je crois que c'est Jean-Christophe qui voulait commencer là-dessus.
Oui, alors effectivement, la création de l'association, c'est il y a un an, mais en fait, ça fait longtemps, au moins depuis 2017, qu'on est plusieurs à se retrouver chaque année au SOTM, State of the Map, la conférence des contributeurs et contributrices OpenStreetMap, et à se dire que on a en commun d'avoir une activité autour d'OpenStreetMap, une activité de formation, une activité de contribution, une activité de prestation technique, réalisation technique, développement avec les données d'OpenStreetMap. Et à infusé au fil du temps l'idée, l'envie de se regrouper pour pouvoir échanger, partager à plusieurs. Ça aboutit en 2022 à la création de l'association Fédération des pros d'OpenStreetMap.
Alors, donc début 2022, cette discussion, sans doute des discussions internes, AG, lancement officiel en 2022. Donc lancement officiel, c'était combien d'entreprises, combien de structures, Florian?
Ah, au tout début, on était quelques structures, on était 5 ou 6 entreprises déjà, et parmi lesquelles il faut souligner qu'il y a pas mal d'auto-entrepreneurs, de personnes qui sont seules, qui souhaitent pérenniser leur activité. De consultants, ils sont développeurs, ils sont data analystes, et puis ils veulent vraiment vivre d'OpenStreetMap. Et ça, c'est un mouvement qu'on essaye d'accompagner.
Juste peut-être préciser avant que tu continues, que ça, c'est important, c'est que même si OpenStreetMap, donc c'est des bases de données qui sont, on va en parler à peu près, en sous licence libre, comme Wikipédia, ça veut pas dire que tout est gratuit, qu'on peut en vivre en offrant des services, de la valeur ajoutée. Donc voilà, les deux ne sont pas forcément séparés. On peut contribuer simplement bénévolement aussi. Voilà, c'est peut-être important déjà de dire que.
Bah, je crois que s'il y a un message à passer aujourd'hui, c'est celui-là. C'est pourquoi on a lancé la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap. C'est aussi pour montrer que il est très sain et on peut protéger le commun. C'est un commun numérique qu'on essaye de protéger et en même temps faire du business. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on a lancé OpenStreetMap. Et c'est là où on diffère un peu de Wikipédia, où les contributions sur Wikipédia qui sont rémunérées, elles sont strictement interdites. Parce qu'avec l'expérience, oui, on s'est rendu compte que Wikipédia était dégradé avec ce genre de contribution. Alors que sur OpenStreetMap, c'est vraiment différent. Les entreprises ont l'habitude, et il y a beaucoup de grosses entreprises, des petites, qui contribuent à OpenStreetMap et qui utilisent les données dans leur business. au cœur de leur business et ça pose pas de problème et même ça apporte quelque chose à OpenStreetMap.
Alors petite question, fédération des pros d'OSM, est-ce que c'est strictement français, francophone? Est-ce que ça a vocation de s'élargir?
Bon, pour l'instant on a pris un nom français,
ouais.
On n'est pas limité à la France. Il faut dire que notre initiative en fait elle est unique au monde. Aujourd'hui, il y a pas d'autres fédérations qui a le même statut que nous. Donc c'est vraiment un projet pilote. On espère que ça va essaimer partout dans le monde. En tout cas, on est reconnu par la fondation OpenStreetMap. On a un accord où on a le droit d'utiliser la marque OpenStreetMap pour faire ce qu'on fait. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau. On essaie de créer quelque chose qui n'existe pas jusqu'à présent.
D'accord. Alors si je comprends par rapport à ce que tu viens de dire, ce que je ne savais pas. Donc OpenStreetMap est une marque. Le nom donc, et donc pour l'utilisation dans un cadre précis, il faut donc l'autorisation de la fondation OpenStreetMap.
La fondation OpenStreetMap qui a donné ce droit avec grand plaisir à tous les chapters locaux, donc c'est-à-dire les associations qui représentent OpenStreetMap un peu partout dans le monde. En France, c'est OpenStreetMap France.
Ah, tu t'entendais plus dans le casque pour ça. Peut-être que tu t'es éloigné un peu du micro pour ça.
D'accord. C'était l'association OpenStreetMap France, le chapter local en France qui gère un peu les activités et qui représente en fait. Hein, l'association ne fait que représenter, mais en fait, c'est la communauté OpenStreetMap hein, qui contribue à OpenStreetMap. Et donc là, il y a un nouveau statut qui aujourd'hui est assez inédit au monde. Où c'est des membres, les membres de cette nouvelle structure, bah c'est des entreprises. Donc la fédération n'a que des entreprises comme membres.
D'accord. Donc Jean-Christophe, aujourd'hui, vous êtes combien d'entreprises? Ça représente combien de personnes? Peut-être une petite typologie, peut-être des entreprises qui sont membres de cette ou des structures ou même des entrepreneurs, entrepreneuses individuelles qui sont membres de cette fédération?
Oui, alors effectivement, 8 entreprises à la création. Aujourd'hui, 20 entreprises membres, ce qui prouve pour moi la pertinence de notre démarche, le fait que c'était le bon moment de créer la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap parce qu'il y avait des attentes. Donc voilà, aujourd'hui, ça représente une vingtaine d'entreprises de toute taille, du travailleur individuel à la TPE de 2-3 personnes à des PME, quelques PME un peu plus conséquentes avec une vingtaine de personnes. Donc ça représente au total 200 contributeurs et contributrices, plusieurs millions de chiffres d'affaires annuels. Et puis peut-être passer la parole à Florian pour citer nos plus grosses entreprises parce que c'est sans doute des noms connus en tout cas pour une partie de nos auditeurs et auditrices.
D'accord, Florian.
Oui, c'est vrai qu'on a GeoVélo, c'est une appli qui permet de faire des calculs d'itinéraires en vélo. Et donc cette entreprise fait partie de la Fédé. Et puis on a quelques entreprises type Latitude Carthagène ou Data Activist qui sont connues un peu dans le monde du logiciel libre et qui contribuent. Et puis on a pas mal d'autres PME qui sont de taille moyenne qui font partie de la Fédé.
D'accord. Alors si aujourd'hui, avant de parler de vos projets, si une entreprise qui nous écoute ou même une personne qui a une activité professionnelle autour d'OpenStreetMap souhaite vous rejoindre, comment ça se passe?
C'est simple, il suffit d'aller sur notre site internet fpsm.fr et puis de prendre connaissance de nos statuts, du projet qu'on veut faire. Vraiment, c'est améliorer, protéger le commun OpenStreetMap tout en continuant à faire du business. Et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à faire. Donc si vous êtes une entreprise et que vous partagez nos valeurs, bienvenue.
Alors, tu parles de valeurs, je me souviens même que sur le site, il y a une charte éthique. Jean-Christophe, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le but de cette charte éthique? Parce qu'il n'y a pas toujours des entreprises qui affichent, ou des fédérations qui affichent des chartes éthiques.
Alors, effectivement, pour que les actions des acteurs économiques autour du commun OpenStreetMap soient vertueuses, comme l'a souligné Florian, hein, viennent contribuer au projet, il faut respecter un certain nombre de règles. Il faut respecter d'abord la licence. Donc la licence de OpenStreetMap, c'est la licence ODBL, Open Database License, qui est une licence copyleft, c'est-à-dire avec une obligation de repartage à l'identique sous la même licence des versions modifiées de la base de données. Et puis surtout, comme dans toutes les licences libres, l'obligation, l'impératif de citer l'auteur, de citer la source. Donc à chaque fois qu'on va utiliser des données OpenStreetMap, il faudra mettre cette mention, les contributeurs, contributrices OpenStreetMap, pour respecter cette obligation de crédit. Et d'ailleurs, on peut boucler la boucle. Tout à l'heure, Florian citait parmi nos membres Latitude Carthagène. Regardez la prochaine fois que vous attendez le bus dans votre ville, c'est pas du tout improbable que les plans de réseau de bus aient été faits par Latitude Carthagène et vous trouverez sans doute des crédits OpenStreetMap au pied de la carte. Ça, c'est pour respecter la licence. Et puis, au-delà de la licence, la communauté des contributeurs et des contributrices OpenStreetMap s'est dotée de bonnes pratiques, de choses qu'on doit faire ou qu'on ne doit pas faire pour améliorer la base de données. Et donc, pour adhérer à la Fédération des professionnels OpenStreetMap, il faut s'engager sur le respect le plus strict de cette licence et de ces bonnes pratiques, parce que le fait d'avoir une activité économique autour d'OpenStreetMap nous paraît tout à fait bénéfique au projet. Par contre, il faut être vigilant, cette activité ne peut pas s'exercer n'importe comment. Et d'ailleurs, on peut souligner que des contributeurs qui ne seraient pas des professionnels pourraient aussi manquer à ces obligations de respect de la licence et des bonnes pratiques. Et il est important de rappeler ça, de sensibiliser les contributeurs et les contributrices à ces principes pour le bien du projet.
D'accord. Donc si je, ça me permet de faire peut-être l'enchaînement avec justement la raison d'être de la FED, les projets. Et finalement, la raison d'être initiale, si je comprends bien, c'est la structuration de la filière professionnelle d'OpenStreetMap.
C'est exactement ça.
Il y avait vraiment besoin. Alors y a-t-il vraiment besoin? Pourquoi il y avait un besoin? Et qu'est-ce qu'on entend par structuration de la filière des pros?
Le premier besoin, c'était on commençait à être des pros, quelques pros un peu isolés, et puis on s'est dit en fait, on a déjà réussi à pérenniser notre propre activité, mais en fait, il y a d'autres personnes qui souhaitent se lancer. Donc, on va les aider. Donc, ça, c'est vraiment le premier réflexe qu'on a eu. Et puis après, on s'est dit, on va se mettre ensemble pour mettre en commun nos moyens, répondre ensemble à des appels d'offres, construire des offres commerciales et avoir plus de force de frappe.
D'accord. Donc, c'est à la fois, effectivement, accompagner des nouvelles structures ou de nouvelles personnes qui souhaitent faire de l'activité professionnelle autour de logiciel libre, et aussi faire finalement ce qui est effectivement une activité classique traditionnelle des fédérations, se regrouper. Est-ce que c'est se regrouper aussi parce que, comme peut-être que vous êtes, même si tu as cité sans doute des grosses structures dedans, mais globalement vous êtes quand même dans le monde du logiciel libre, c'est souvent des petites structures, des PME, PMI. Est-ce que se regrouper, c'est permettre de répondre par exemple à des appels d'offres plus gros que ce que vous ne pourriez faire en termes de structure individuelle, ou est-ce que, et c'est pour avoir un périmètre plus large de réponse?
C'est pour avoir un périmètre plus large de réponse. D'accord. Et pouvoir combiner nos compétences. Il y a certaines entreprises qui ont vraiment des compétences clés et d'autres qui ne les ont pas. Donc, on arrive à mieux se coordonner. Et puis, c'est aussi pour faire plus de poids parce que face à des acteurs cartographiques mondiaux, on est rien du tout. Donc déjà, le fait d'exister et d'avoir une voix commune, c'est déjà beaucoup.
D'accord. Jean-Christophe, comment ça a été accueilli l'annonce de cette fédération dans le monde d'OpenStreetMap? Est-ce qu'il y a eu des réactions? Est-ce que le chapter français dont on parlait tout à l'heure, comment ça a été accueilli en fait? Parce que tout à l'heure vous disiez que c'était quelque chose d'unique, une initiative telle que celle-là dans le monde d'OpenStreetMap. Voilà, comment ça a été accueilli?
Eh ben, pas forcément de manière facile au départ. Ça m'inspire une réflexion. D'ailleurs, c'est que il y a, je pense, depuis toujours dans le monde du logiciel libre, une tension entre le travail bénévole et le travail rémunéré. Et cette tension, je l'ai vécue par exemple en 2006 avec la création de Libertis. C'était à l'époque le groupement des entreprises du logiciel libre en région PACA, qui existe toujours d'ailleurs et qui est la représentation des entreprises de la région PACA au sein du CNLL, le Conseil National du Logiciel Libre. Quand on crée ce genre de structure, eh ben on est confronté à une partie de la communauté qui nous renvoie vous cherchez à gagner de l'argent avec nos contributions bénévoles et ça ne va pas du tout, c'est pas respectueux. Et donc, ben, ça nécessite de faire de la pédagogie. Ça nécessite de montrer patte blanche aussi et de démontrer en fait que nos activités professionnelles autour du logiciel libre, autour d'OpenStreetMap, elles viennent soutenir et renforcer le projet OpenStreetMap et pas du tout le phagocyter ou profiter simplement des contributions des bénévoles. Et donc, si on crée un écosystème système respectueux des valeurs et des principes qu'on a édités précédemment, hein, la licence, les bonnes pratiques de contribution, alors on soutient le commun et on évite en fait de laisser nos vies contrôlées par des géants du numérique qui, eux, n'ont pas ce souci de respect des valeurs et des utilisateurs et des utilisatrices.
Alors, avant de parler des géants du numérique, tu viens de parler de la licence. Tout à l'heure, Jean-Christophe, tu l'as abordé très rapidement, Open Database License, donc la licence de base de données ouverte. J'aimerais bien que, parce que c'est une des rares fois qu'on aborde, enfin une des premières fois qu'on aborde ce sujet-là. Est-ce que Florian, tu peux peut-être un peu expliquer ce que c'est que cette licence?
Oui. En fait, à la base, le projet OpenStreetMap, il avait les mêmes licences que Wikipédia, donc c'était du Creative Commons. Et puis, comme c'est une base de données, c'est pas vraiment le même droit qui s'applique. Il y a eu un besoin de créer cette licence ODBL qui, dans la philosophie, est à peu près similaire. C'est-à-dire le partage à l'identique, l'ouverture par défaut, puis citer les auteurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est commun avec dans la philosophie au Creative Commons. Et puis après, les spécificités du droit liées aux bases de données s'appliquent aussi. Donc c'est vraiment une licence qui est adaptée pour ça. Cette licence, c'est une des deux licences qui est officiellement reconnue par l'État français comme Open Data en France. Donc elle est largement, très largement utilisée par les collectivités locales, par les collectivités centrales, enfin les
administrations.
Les administrations centrales, exactement. Donc c'est une licence qui est vraiment très populaire, c'est la licence de l'Open Data.
Oui, tu fais référence, on mettra la référence sur le site de l'émission, à un décret effectivement qui liste les licences autorisées en termes d'usage dans l'administration, à la fois en termes de logiciels, en termes de bases de données, parce qu'effectivement, comme tu le dis, le droit n'est pas le même entre le droit des droits d'auteur des logiciels et le droit des bases de données. Avant d'avenir sur les géants du numérique, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Jean-Christophe, juste revenir sur le tout à l'heure Florian disait, on est là pour favoriser, soutenir, encourager des nouvelles personnes, de nouvelles structures à se lancer dans de l'activité commerciale professionnelle, en tout cas autour du logiciel, autour d'OpenStreetMap. Est-ce que au bout d'un an, vous avez eu déjà des premiers retours?
Alors effectivement, on a certains de nos membres qui sont venus nous voir. Alors soit en nous disant, ben voilà, moi j'ai une activité autour d'OpenStreetMap, mais en fait c'est pas structuré, je sais pas quel statut je dois adopter, est-ce que je dois être plutôt auto-entrepreneur ou me rejoindre une coopérative d'activité d'emploi ou encore une autre forme juridique. Et puis comment je m'y prends pour trouver des clients, pour définir, calculer mes prix, voilà. Donc c'est arrivé effectivement qu'on puisse conseiller des personnes qui démarrent une activité, voire même qui n'ont pas encore d'activité et qui réfléchissent. Et donc la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap peut être un interlocuteur, peut être un soutien, parce que on est plusieurs à avoir une petite expérience de l'activité entrepreneuriale sous différentes formes, sous différents statuts, avec différentes typologies de clients aussi. Certains d'entre nous travaillent plutôt avec des collectivités, administrations, d'autres avec le secteur privé. Et donc le fait de pouvoir partager ces expériences avec des personnes qui souhaitent se lancer, c'est quelque chose qu'on a déjà fait et qu'on va continuer à faire.
D'accord, bah justement, ça arrive sur une question que je voulais te poser, que je venais juste de cocher ici, sur les typologies de clientèle que vous pouvez avoir, alors peut-être même en donnant des exemples si vous pouvez, quels sont les types de structures clientes qui s'intéressent à OpenStreetMap, qui utilisent OpenStreetMap et qui font appel à des pros d'OpenStreetMap, Florian?
Oui, ça c'est très 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 varié, puisque il y a des métiers qui sont très différents dans la base de données. Donc il y a de l'analyse de données, de la création de données, de la maintenance de données, C'est ce qu'on fait chez Jungle Bus, par exemple. Il y a des business models qui sont très différents. On a, du coup, je le disais tout à l'heure, GeoVélo qui travaille sur son appli mobile, hein, qui est utilisable pour faire des calculs d'itinéraires vélo. Et eux, ils travaillent avec les collectivités locales. Donc, ils font du conseil, de l'accompagnement de collectivités locales. Et puis, il y a des business qui sont très spécialisés sur le géocoding, sur des activités très geek,
très particulier.
Très métier, voilà, ouais. C'est ça, le géocoding.
Alors, c'est quoi le géocoding?
Le géocoding, c'est rechercher une adresse, ça te trouve un point, une géolocalisation, une adresse, voilà. Donc, tu as des métiers comme ça, ou des moteurs de recherche cartographiques. Si tu cherches un lieu, ça te trouve un point exactement. Donc, voilà. Tout ça, c'est des métiers très spécifiques. Il y a de l'embarqué, il y a du logiciel, il y a du développement. Voilà. Tout ça, c'est des compétences que les membres de la FEDE ont. Et au final, les typologies de clients sont très, très différentes. Il y en a qui travaillent dans le tourisme, dans la mobilité, dans la tech directement. Voilà. Donc, c'est vraiment très varié.
Alors, juste avant la pause musicale, Jean-Christophe, est-ce que tu veux compléter sur cette partie-là? C'est un petit peu
peut-être donner quelques noms à nouveau, qui peuvent parler à nos auditeurs. Dans les clients des membres de la Fédération d'OpenStreetMap, on va trouver la SNCF, on va trouver Île-de-France Mobilité, on va trouver plusieurs offices de tourisme partout en France et des agences départementales et régionales du tourisme. On va trouver des fédérations de professionnels d'autres domaines, notamment par exemple dans l'économie sociale et solidaire, qui souhaitent faire des cartographies de leurs membres et s'appuyer sur OpenStreetMap pour cela. On va trouver des collectivités locales de toute taille, des métropoles, des départements, des communes, des parcs naturels régionaux. Donc, voilà, c'est extrêmement diversifié, à la fois dans la taille, à la fois dans la répartition géographique, à la fois dans les thématiques métiers. Et c'est parce que on est aujourd'hui une vingtaine d'entreprises avec des compétences complémentaires qu'on peut adresser une telle étendue de clients.
Ok. Bah écoutez, merci, on va faire une pause musicale pour respirer un petit peu. Donc, nous allons écouter Peau Rouge des Gueules Noires. On se retrouve dans 3 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Silence à l'intérieur de l'intérieur. Il ne reste rien. Alors n'ayez plus peur.
Alors, j'espère que vous avez dansé avec nous. C'était, on a bien écouté Peau Rouge, Des Gueules Noires. J'ai noté une phrase que j'avais jamais fait attention en écoutant cette chanson. Le capitalisme a fini ce que le fascisme n'avait pas réussi. Écoutez, c'était donc Peau Rouge, Des Gueules Noires, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, nous allons poursuivre notre discussion sur la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap avec Florian Lenné, président donc de la Fédération, et Jean-Christophe Becquet, vice-président de la Fédération. Dans la chanson dont on parlait, pas de capitalisme, je ne sais pas si vous vous considérez comme des capitalistes ou pas.
Plutôt, hein, oui, justement, là, dans le mouvement du libre, il y a plutôt, il y a des tendances anticapitalistes et d'autres qui sont plutôt capitalistes.
D'accord.
Non, on est plutôt fièrement capitaliste.
D'accord. Jean-Christophe?
En tout cas, pas hostile à la réalité économique. Après, je pense qu'on peut avoir une activité économique être respectueux d'une certaine manière de produire, de consommer et de répartir l'argent.
Bah écoute, c'est une belle réponse, parce que sachant qu'on n'avait pas prévu d'aborder ce sujet-là, c'est l'écoute de la musique qui m'a fait venir ce sujet. Juste avant la pause musicale, plusieurs fois, vous avez évoqué ces fameux géants du numérique, hein, Google, Microsoft, Apple, Amazon, etc. Donc, on a bien compris, dans vos explications tout à l'heure, que la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap, c'est plutôt un réseau de PME, voire de personnes individuelles. Donc, j'ai envie de vous demander comment vous positionner face aux géants du numérique, Florian.
La position avec les géants du numérique, elle est un peu ambiguë. Parce que dans les années 90, le problème était facile. On voulait détruire Microsoft, et puis il y avait, on faisait du logiciel libre, et puis il y avait les méchants, ils nous traitaient de communistes. Enfin, c'était violent. Et puis là, il y a quand même quelque chose. Déjà, le combat pour la liberté informatique et le contrôle de l'outil informatique, il s'est un peu diversifié. Avant, on n'avait que le logiciel. Maintenant, on a les données, les algorithmes, tout ça. Il faut vraiment s'y plonger, construire des solutions pour que les gros groupes ne se les accaparent pas. Et puis, avec les licences Open Data, avec l'ODBL, la porte, elle reste ouverte. Et on voit qu'en fait, il y a vraiment une grosse implication de grands acteurs dans OpenStreetMap, qui voient, on ne va pas être naïf, hein, un outil pour contrer le quasi-monopole de Google Maps. Les plus grands contributeurs financiers, hein, la fondation, c'est Microsoft, qui vient de donner 150 000 euros par exemple là en ce moment. On est dans une situation qui est pas extrêmement claire, dans laquelle on essaye de créer quelque chose d'indépendant, mais on a besoin quand même du soutien des gros acteurs. Et puis ils sont les bienvenus au final. On n'a pas envie de les exclure. S'ils veulent faire de l'open data intelligemment avec nous, ils sont les bienvenus.
Alors, juste avant de te donner la parole, Jean-Christophe, ça me fait un peu penser peut-être à la contribution d'IBM dans le noyau Linux et aux de grands acteurs. Mais juste avant de donner la parole, Jean-Christophe, sur le salon web de l'émission, d'ailleurs, vous pouvez nous rejoindre sur causecommune.fm, bouton de chat. Il y a une personne qui signale que ce n'est pas une insulte communiste, mais c'est vrai qu'à l'époque de Microsoft, c'était vu comme une insulte, notamment parce que c'était aux États-Unis. Il y avait aussi la principale licence du logiciel libre qui était vue comme un cancer par Microsoft. Donc c'était façon négative. Mais évidemment, ce n'est pas une insulte d'être communiste. Donc, Jean-Christophe, sur cette question par rapport au positionnement, par rapport aux géants du numérique.
Eh bien, en écoutant la question, je réalise peut-être une erreur de vocabulaire qu'on fait quand on dit les géants du numérique. Parce que, est-ce que ce qui pose problème, c'est tellement leur taille que leur absence d'éthique? Alors effectivement, dans la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap, même nos membres entreprises les plus gros ne comptent que quelques dizaines de personnes, et donc c'est sans commune mesure avec ceux qu'on appelle les géants du numérique. Mais en fait, le grief n'est pas tant leur taille que leur monopole, et surtout leur absence d'éthique, le fait qu'ils ne sont pas respectueux des libertés des utilisateurs et des utilisatrices, qu'ils sont dans une posture de captation de l'attention, de captation des données, et C'est ce contre quoi on s'insurge au sein de la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap. En fait, ce qu'on défend, c'est des pratiques de l'informatique plus vertueuses et plus respectueuses des personnes.
D'accord, oui, excuse-moi, je t'écoutais. C'est... oui, tout à fait, oui. Alors, dans les géants du numérique, souvent on fait référence à... Donc à Google, Amazon et Facebook évidemment, mais dans votre domaine, la cartographie, il y en a un autre. Alors, je ne sais pas si vous le traitez de géant du numérique, c'est TomTom.
Oui.
Alors,
est...
c'est quoi rappelle-nous peut-être Florian, Jean-Christophe, c'est quoi TomTom et quel est le positionnement de TomTom par rapport justement à ces bases de données géographiques et notamment OpenStreetMap?
Oui, TomTom c'est un groupe néerlandais qui fait de la carto et qui a changé, qui change vraiment de configuration ces dernières années. Il y a 10 ans, il nous disait que OpenStreetMap c'était vraiment c'était horrible. D'ailleurs, je cite, il disait en 2012, malgré leur qualité, les études récentes soulignent les défauts majeurs de la cartographie open source, en particulier concernant la sécurité, la précision et la fiabilité.
Donc ça, c'était il y a 11 ans.
Ouais, c'était il y a 11 ans, c'était sur leur site internet et il n'est plus disponible. Donc je suis allé, on allait retrouver cette citation. Ils l'ont enlevé de leur site internet. Ils ont fait un virage à 90 degrés l'année dernière. Ils ont lancé ce qu'ils ont appelé TomTom V2. Donc pour eux, c'est vraiment un changement total. Et là encore, je cite fin 2022, utiliser OpenStreetMap c'est la traduction est de moi. Utiliser OpenStreetMap est un changement de paradigme pour l'industrie. OSM est constamment mis à jour par des millions de contributeurs actifs. Cela permettra à TomTom de produire en continu la carte la plus riche, la plus à jour, la plus détaillée et la plus précise dans le monde entier. Donc, changement total. Hein. Là, c'est vraiment un retournement complètement de situation. TomTom et les gros acteurs, en fait, c'est un peu tout le monde sauf Google, hein, j'ai l'impression, créent une fondation qui s'appelle Overture Maps Foundation.
Ah, c'est dire quoi en français, ça?
C'est la fondation pour le ouvrir les cartes. Hein,
ouvrir les cartes, d'accord,
ouais,
ok.
Overture Maps. Et ils ont créé ça l'année dernière. Et donc là, on a... des interrogations sur qu'est-ce qu'ils cherchent à faire avec ça. En tout cas, OpenStreetMap est une source primaire de cette nouvelle initiative.
Alors, vas-y Jean-Christophe.
C'est drôle parce que on faisait tout à l'heure écho à l'évolution de la position de Microsoft sur le système GNU Linux, qui a commencé par le traiter de cancer avant de l'incorporer dans son système d'exploitation maison. C'est exactement la même chose qui se passe pour TomTom entre des critiques virulentes de OpenStreetMap en 2012 pour finalement venir dire que c'est une super source et qu'ils vont l'inclure dans leur projet. Et finalement, la boucle est bouclée parce que le projet Overture Map dont on parle de TomTom et quelques autres géants a fait le choix de s'héberger sous l'égide de la Fondation Linux. Donc voilà, c'est la même chose, mais juste 20 ans plus tard, quoi.
Oui, et ça me fait penser aussi qu'il y a, quand on parlait tout à l'heure de OpenStreetMap, qui est le Wikipédia de la cartographie, il y a une vingtaine d'années, quand Wikipédia s'est créé, les mêmes, comme Microsoft notamment, disaient que jamais il pourrait y avoir une encyclopédie en ligne accessible et qu'il fallait absolument utiliser celle de Microsoft, dont je ne me souviens pas du nom. Voilà, on voit bien que 20 ans plus tard, ça a beaucoup évolué. Mais néanmoins, ça me fait penser à une question, parce qu'en fait, ces gens-là, notamment TomTom et compagnie, j'ai plutôt l'impression que ce qu'ils veulent désinguer, c'est Google et Google Maps. Est-ce que même si TomTom utilise donc de ce que j'en comprends en novembre 2022 OSM comme source de ses cartes, est-ce que pour autant les services qu'ils proposent sont éthiques, pour reprendre les termes employés tout à l'heure par Jean-Christophe? Qui veut réagir là-dessus?
C'est difficile à dire parce que dans Overture Maps on n'a pas que TomTom, on a AWS donc de
Amazon,
voilà exactement. Il y a Bing Maps de Microsoft.
De Microsoft. Ouais.
Donc en fait c'est un peu un deal. TomTom, Microsoft vont créer des données, on va héberger tout ça sur AWS et comme ça les développeurs du monde entier pourront utiliser très rapidement ces données libres. En continuant à passer par les services de ces entreprises. Donc c'est un peu un couteau à double tranchant. Comment est-ce que ça va évoluer? Aujourd'hui on n'en sait rien, on sait très peu de choses de ça. Ce qu'on sait, c'est que OpenStreetMap devient une référence pour les données cartographiques dans le monde. On le savait déjà, hein, c'était vraiment le cas, à part Google Maps. On a Apple Plan, on a quelques, on a TomTom, on avait deux trois fournisseurs de données qui étaient sérieux, mais OpenStreetMap prend maintenant un rôle qui est tout à fait majeur et on peut pas s'en passer dans la majorité de très nombreux services cartographiques et des applications mobiles. On a plein d'applis mobiles qui D'accord. utilisent OpenStreetMap, les données OpenStreetMap par défaut.
Alors avant de relever une question du salon web, est-ce que tu veux réagir là-dessus, Jean-Christophe, sur la partie sur ma question sur TomTom et compagnie?
Oui, ben en tout cas moi ma posture c'est une posture de grande méfiance. Aujourd'hui, on est plutôt en observation parce que en fait il y a eu des grosses annonces de la part de OpenStreetMap, mais pas grand chose de concret, de visible pour l'instant en termes de données et de services. Le point de vigilance ce sera de regarder. Comment ce projet est mis en œuvre, est-ce que les licences sont respectées et est-ce que même si les données restent libres, il n'y a pas des dispositions qui sont prises pour rendre les utilisateurs et utilisatrices captifs d'un univers ensuite bon voilà le ticket d'entrée pour rejoindre la fondation OpenStreetMap c'est 1 million d'euros donc on parle pas vraiment de la même chose entre OpenStreetMap et la fédération des professionnels d'OpenStreetMap.
Ouais, j'allais justement vous demander si vous comptiez un jour rejoindre cette fondation. Je crois que j'ai, au-delà de la question éthique, j'ai la réponse économique. Alors j'ai quand même relié une question qui est sur le salon web. Hein. Alors d'ailleurs, préciser, merci Muman qui me précise que l'encyclopédie de Microsoft, c'est Encarta, qui s'appelait Encarta. Merci Muman. Et donc Marie-Odile demandait, quels sont vos interlocuteurs physiques chez les GAFAM? Parce qu'en fait, ce sont des entités lointaines. Est-ce que vous avez des gens chez les GAFAM avec qui vous échangez sur ces sujets-là?
Pas directement en France. Alors, je vais répondre au nom de la fédération, parce que certaines de nos entreprises ont des contacts avec qui peuvent potentiellement être des partenaires commerciaux. Côté la fédération française, pour l'instant, on n'a pas de lien direct. Peut-être à TomTom, avec TomTom France, on a un lien. Pour l'instant, ça donne pas. On attend de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler avec ces acteurs. Après, je pense que la fondation OpenStreetMap quand même des liens assez étroits avec ces personnes qui sont des sponsors récurrents de l'événement annuel qui s'appelle le State of the Map, qui a eu lieu d'ailleurs ce week-end à Anvers. Donc là, il y a le State of the Map Europe. C'est des sponsors récurrents.
D'accord. Alors, je vois juste que les gens qui nous écoutent et qui sont sur l'ensemble web, j'ai une déconnexion, donc je suis pas sûr de pouvoir voir vos messages. Je vais me connecter d'une autre façon, donc avec le téléphone. Donc voilà. Je récupère. Le temps avance vite hein, quand on parle de choses intéressantes. On va passer à un autre sujet. Tout à l'heure, on va revenir sur un sujet qui a été évoqué tout à l'heure par Jean-Christophe, je crois, quand je demandais comment l'annonce de la fédération avait été accueillie, notamment par les personnes qui travaillent, qui agissent bénévolement autour d'OpenStreetMap, parce que finalement vous représentez des entreprises et une fédération qui contribuent d'un point de vue professionnel donc à OpenStreetMap. Donc comment vous envisagez la relation entre les personnes qui contribuent bénévolement et les personnes ou structures qui contribuent professionnellement ou qui ont une activité professionnelle dans les communautés du libre? C'est quoi les relations?
Alors déjà, il faut savoir que les deux s'interconnectent énormément. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont nos membres dans lesquelles il y a des personnes qui contribuent bénévolement. Et moi, je suis le premier à contribuer à OpenStreetMap le soir. Et deuxièmement, c'est déjà le cas depuis longtemps. Il y a de très très nombreux professionnels qui contribuent à OpenStreetMap. Il y a des collectivités locales, il y a des offices de tourisme, des entreprises qui créent des données. Et nous, Jungle Bus, mon entreprise crée des données de mobilité sans avoir demandé l'autorisation à qui que ce soit. On respecte les règles d'OpenStreetMap et donc on est contributeur tout à fait légitime à ce projet. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien qui change. Donc notre structure, elle vise vraiment à dynamiser, à structurer une filière économique qui est en train d'émerger. Et donc en fait, il n'y a pas une relation directe avec les contributeurs bénévoles. Je veux dire, c'est en parallèle et ça, on contribue tous à OpenStreetMap en respectant le commun numérique.
D'accord, Jean-Christophe?
Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse se parler. entre contributeurs, contributrices bénévoles, passionnés et professionnels. Les professionnels ne sont pas moins passionnés d'ailleurs. Mais je pense que l'important, c'est qu'on puisse se parler. Alors, je pense que ça a pas mal commencé parce qu'en fait, les premières discussions entre les professionnels de Bumfrit Map qui ont abouti, comme je l'expliquais tout à l'heure, à la création de la Fédération des professionnels de Bumfrit Map, elles ont eu lieu lors du State of the Map France, la rencontre annuelle des contributeurs et contributrices au Bumfrit Map. On se retrouve chaque année à cet événement, nos entreprises y participent, on propose des conférences voilà, moi je pense que ce qui est important c'est que un dialogue soit préservé, soit renforcé entre ces différents intervenants, en fait, ces différents contributeurs et contributrices OpenStreetMap. Aujourd'hui, dans les contributeurs et contributrices OpenStreetMap, il y a des personnes qui contribuent à titre individuel, il y a des personnes qui contribuent au titre d'une collectivité, d'une association, d'une entreprise de toute taille. Et il faut juste qu'on apprenne à mieux travailler ensemble en ne perdant pas de vue notre raison d'être qui est de fabriquer une base de données géographique mondiale sous licence libre.
Est-ce que là tout à l'heure vous avez parlé de votre l'événement donc mondial autour d'OpenStreetMap. Est-ce que vous êtes présent à d'autres types d'événements justement peut-être non orientés données libres ou logiciels libres? Est-ce que vous êtes présent à des événements soit en tant qu'entreprise soit en tant que fédération?
Oui, la fédération et les entreprises, on essaye d'être présent à plusieurs événements. Notamment, déjà, les entreprises, elles ont leur propre spécialité et leur propre secteur d'activité. Donc, en fait, elles sont déjà présentes sur ces événements
spécifiques.
Voilà, c'est ça. Et donc, c'est vrai que ça permet de démultiplier la bonne parole OpenStreetMap, si je puis dire, dans ces événements en particulier. Après, nous, cette année, on était présents au Geodata Days, qui était la réunion des acteurs de la carto en France. Mmh. Donc ça, c'était vraiment un moment important. Puis on essaye d'être présent sur d'autres salons. Il y a le Salon des Maires bientôt, il y a Expérience Libre qui est en novembre. Comment ça s'appelait avant? Ça a changé de nom, pardon.
Ouais, je vois pas de quoi tu fais référence, là. Je suis désolé.
Open Source Experience.
Ah, oui. Donc Open Source Experience, c'est les 6 et 7 décembre à Paris.
Tout à fait, exactement. Bon, voilà, il y a plusieurs événements. J'ai plus tout en tête, peut-être, Jean-Christophe, t'as envie de compléter?
Peut-être pour compléter, dire que en plus des événements, plusieurs membres de la fédération font un prosélytisme actif en faveur de OpenStreetMap. On est quelques-uns à faire régulièrement, quelques-unes à faire régulièrement des conférences. On est plusieurs à faire de l'enseignement, de la formation. Et donc, ça c'est extrêmement bénéfique à la communauté parce que ça contribue à faire connaître le projet, à mobiliser des nouveaux contributeurs, nouvelles contributrices et utilisateurs, utilisatrices aussi de la base de données, à générer des nouvelles initiatives, des nouvelles dynamiques. D'ailleurs, moi, je trouve frappant et intéressant qu'on voit apparaître aujourd'hui de plus en plus de territoires qui publient des marchés dont l'objet est créer une dynamique autour de OpenStreetMap sur notre territoire. Voilà, je pense par exemple au parc naturel régional du Haut-Jura qui a engagé ce type de dynamique. Et donc, lors de la fête du parc naturel régional du Haut-Jura, il y avait un stand OpenStreetMap avec des ateliers qui étaient proposés pour permettre aux visiteurs de découvrir OpenStreetMap. Donc voilà, c'est extrêmement divers en fait notre action de communication et de sensibilisation.
D'accord. Une petite question avant de passer à la partie contribution OpenStreetMap motivation, parce que je trouve que c'est intéressant d'y passer encore quelques minutes, même si le temps avance vite. Est-ce que la fédération a des objectifs de faire de la sensibilisation auprès de l'action politique?
Ça pourrait venir. Le lobbyisme est toujours quelque chose qu'on a un peu dans l'angle de vue. Pour l'instant, c'est assez distribué. Hein. C'est les membres nous qui contribuent à cette action. La Fédé n'a pas encore de grande action. Cette année, on aimerait bien expliquer mieux la licence ODBL, qui est très mal comprise par beaucoup de personnes. Notamment les acteurs publics et en fait il faut vraiment qu'on fasse un travail de pédagogie, ce qu'on a commencé à engager en traduisant. Alors il y a une traduction des bonnes pratiques communautaire lié à la licence en français. On est en train de voir avec la fondation s'ils peuvent pas approuver la traduction en français. Donc ça serait la première étape. Puis après on créerait du matériel pédagogique, on ferait des événements pour vraiment expliquer cette licence. Ça c'est le travail en cours de cette année qu'on s'est donné.
D'accord. Alors on avait envisagé un sujet subsidiaire, mais qui n'est pas si subsidiaire que ça. Mais je vois qu'on aura encore quelques minutes. C'est qu'est-ce qui pousse finalement et qu'est-ce qui vous pousse à contribuer à OpenStreetMap? Alors à la fois sur du temps bénévole, on l'a bien compris, mais aussi sur du temps professionnel. C'est quoi les motivations?
Alors sur le temps bénévole, ça a déjà été bien documenté par des études académiques qui ont identifié plusieurs facteurs de contribution qui sont, moi je coche toutes les cases. Donc le premier c'est le fun, c'est s'amuser. Ça c'est vraiment un vecteur qui est extrêmement important. Il y a la reconnaissance par les pairs, l'accomplissement personnel, agir en cohérence avec ses valeurs. Tout ça, en fait, ça, c'est des facteurs qui ont bien été identifiés. Et puis, en fait, les outils qu'on a créés, dont Street Complete, ils nous permettent d'aller sur le terrain et de prendre ça comme un jeu. C'est vraiment quelque chose. Bon, voilà, la carte, elle est pas complète à cet endroit-là.
C'est une quête, comme tu as dit tout à l'heure.
C'est une quête.
De mise à jour de carte.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est Pokémon Go, hein. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le Pokémon Go des libristes.
D'accord. Et Jean-Christophe, de ton côté?
Oui, on peut peut-être donner quelques exemples du coup de motivation professionnelle à la contribution à OpenStreetMap, et pour ça, à nouveau, se référer à la diversité des membres de la fédération. Aujourd'hui, on a un membre qui accompagne les offices de tourisme à cartographier sur leur territoire toute l'offre d'hébergement culturel, les services, etc. Et faire ça en s'appuyant sur OpenStreetMap pour éviter de créer de nouveaux silos de données, pour mieux mutualiser, partager l'effort. On a un de nos membres qui cartographie les gares pour faire notamment du calcul d'itinéraire pour les personnes en situation de handicap, à mobilité réduite ou déficient visuel par exemple, en ayant une cartographie de précision de l'intérieur des gares. Et ça se fait sur OpenStreetMap. Ou pour donner un dernier exemple, j'ai réalisé il y a 2 ans l'intégration dans OpenStreetMap des itinéraires cyclables du département des Alpes-de-Provence. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que aujourd'hui, la plupart des applications que les personnes utilisent pour lorsqu'elles se déplacent à vélo s'appuient sur la donnée OpenStreetMap. Les itinéraires cyclables des Alpes-de-Provence étaient mal décrits dans OpenStreetMap, et donc c'était pénalisant pour le département parce qu'ils dépensent de l'argent, de l'énergie pour promouvoir et entretenir ces itinéraires. Et ces itinéraires n'étant pas présents dans OpenStreetMap, ils ne redescendaient pas dans les applications. Et donc là, la motivation, en fait, c'était d'utiliser OpenStreetMap comme un diffuseur de données. Donc voilà, motivation, c'est produire et maintenir à jour des données ensemble, mettre à disposition, rendre visible des données existantes, et puis dans les utilisations autour d'OpenStreetMap, alors il y a bien sûr la contribution, mais il y a aussi l'utilisation des données OpenStreetMap, et ça peut être une motivation de se dire, voilà, moi j'ai une application qui s'appuie sur les données OpenStreetMap, et donc j'ai tout intérêt à contribuer pour avoir de meilleures données et donc une application plus belle, plus à jour, plus efficace.
Écoute, je crois que c'est une belle explication. Et en plus, on va être juste pour le timing, pour la dernière question. Alors, je voulais rajouter à la fin, donc je sais pas si vous l'avez vu ce... c'est notre question habituelle, en fait. On a passé à peu près une heure ensemble. Là, je vais vous demander quels sont les éléments clés à retenir ou les derniers messages que vous souhaiteriez faire passer en moins de 2 minutes chacun. Alors, on va commencer par Jean-Christophe, comme ça permettra à Florent de se préparer.
Eh bien, moi, je voudrais dire que des entreprises travaillent sur et avec OpenStreetMap depuis de nombreuses années. Il est possible de concilier activité économique et respect de la licence libre et des bonnes pratiques de la communauté. Ces professionnels participent au projet OpenStreetMap, le soutiennent et le renforcent. Par exemple, en participant à le faire connaître, à former des nouveaux contributeurs et contributrices, à améliorer encore les données et les outils, qui sont souvent des logiciels libres. Alors, rejoignez la Fédération des professionnels d'OpenStreetMap pour contribuer avec nous à un monde plus libre.
Merci Jean-Christophe. Florian,
après cette page de publicité, je vais... je vais dire peut-être un message un peu sur le futur de l'informatique et de l'outil informatique. J'ai l'impression qu'on arrive dans un monde où il y a de plus en plus de couches qui se superposent les unes les autres. On a des logiciels avec de l'intelligence artificielle, mais qui se basent sur des données, qui elles-mêmes se basent sur encore des sous-couches. Et on est en train de revoir le même système d'empilement qu'on a vu dans le logiciel, où au début, tu as un OS, et puis après, voilà, et tu finis avec du CSS, et tu vois, c'est un peu sans fin. Et il y a des personnes qui vont se préoccuper de plus en plus uniquement du dernier étage. Et en fait, si on n'a pas les étages du dessous qui sont libres, on va pas pouvoir créer des choses qui sont super libres au-dessus. Donc le futur de l'informatique, il est intéressant, mais il faut que le logiciel soit libre, les données soient ouvertes, et les algos ils soient lisibles, ils soient ouverts, ils soient compréhensibles par l'humain, parce que sinon on n'arrivera à rien. Et je pense que si on reste dans des postures idéologiques et qu'on dit on va faire les choses dans notre coin et surtout pas interagir avec la société, ça va pas mener à grand chose. Et que nous, au contraire, on essaye de se dire bon voilà, on a un système tel qu'il existe avec ses défauts, avec ses gros acteurs qui prennent toute la place. Comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose de qui est à la fois bon pour tout le monde, pour l'intérêt général? Qui soit pérenne, sur lequel on peut construire des choses long terme qui soient bénéfiques à tous et notamment aux utilisateurs finaux.
Eh ben c'est une belle conclusion. Donc je vais juste citer deux sites web, hein, FPOSM pour Fédération des pros d'OpenStreetMap et aussi openstreetmap.org, mais sachant que sur la page de l'émission on a rajouté plein de références utiles, donc je vous renvoie sur le site de l'émission, donc sur libreavoue.org/191 ou sur la page de l'émission sur le site de la radio, donc causecommune.fm. Donc nos invités étaient Florian Lénez, président de donc la Fédération des pros d'OSM, dirigeant associé de Jungle Bus, contributeur OpenStreetMap depuis 2009, et Jean-Christophe Becquet, vice-président de l'April et de la Fédération des pros d'OSM, ingénieur conseil directeur d'Apitu, expert conseil informatique libre, Open Data et OpenStreetMap. Ben, je vous remercie tous les deux, je vous souhaite une belle fin de journée.
Merci.
Et à bientôt.
Merci Fred pour cette nouvelle émission et à bientôt pour une prochaine.
Nous allons faire une pause musicale. Nous allons écouter Burn par Zoo ou Sheps. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Nous venons d'écouter Burn par Zoo Sheps, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la rediffusion d'une chronique de Marie-Odile Morandi. On se retrouve juste après.
Nous allons commencer avec une nouvelle chronique, « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Une chronique préenregistrée, proposée par Marie-Odile Morandi, administratrice de l'April, élue par Laure-Élise Daniel, bénévole à l'April. Le thème du jour, de l'intérêt de contribuer à des projets libres. On se retrouve juste après, dans environ 7 minutes, en direct sur Cause Commune, la voie des possibles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la présentation de la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture », on entend et on peut lire qu'il s'agit de partager des coups de cœur pour mettre en valeur une ou deux transcriptions. La transcription dont je souhaite parler aujourd'hui a été un véritable coup de cœur que je souhaite donc partager. Il s'agit de la présentation proposée par Mathieu Fermant au salon Open Source Experience qui s'est tenue à Paris en novembre 2022, intitulée « Les contributions aux logiciels libres sont-elles uniquement destinées à des fins humanistes ?» d'une durée de 47 minutes. Vous trouverez la référence sur la page consacrée à l'émission d'aujourd'hui sur le site libreavoue.org. Une remarque cependant, les libristes que nous sommes regrettent que dans le discours, les expressions « open source » et « logiciel libre » soient employées de façon indifférenciée. Dans cette chronique, le terme « logiciel libre » sera privilégié. Mathieu a une formation de développeur PHP et travaille actuellement pour PrestaShop, une entreprise qui édite un logiciel libre permettant de construire une boutique en ligne. Mathieu explique que toute sa carrière s'est construite sur des projets libres. PHP, langage de programmation qui permet de produire des pages web, Apache, logiciel de serveur web, MySQL, système de gestion de bases de données, et GNU Linux. Il se sent donc redevable envers le monde du libre. En contribuant, il a ainsi l'impression de redonner un peu de ce qu'il a reçu. C'est cette même raison humaniste qui pousse de nombreux développeurs et développeuses à contribuer, mais ce n'est pas la seule. Quel moyen plus efficace pour apprendre que de pratiquer, c'est-à-dire écrire du code ? Dans les projets libres, les contributions qui parviennent sont revues gratuitement par les mainteneurs, les experts du projet, qui en contrôlent la qualité, échangent avec les personnes qui contribuent et leur donnent des indications en retour. Une excellente manière de s'améliorer est de se créer une réputation. Les développeurs et développeuses en recherche d'emploi mentionnent ces contributions sur leur CV, contributions qui sont attentivement regardées par les recruteurs. Cependant, souvent, par manque de temps disponible, ces contributions, faites de façon bénévole et à titre individuel, risquent de ne pas être régulières dans le temps et de ne pas aboutir de façon sérieuse. Il est donc important que ce soit les entreprises qui contribuent, c'est-à-dire qui missionnent certains de leurs salariés sur leur temps de travail rémunéré. Il faut donc convaincre les entreprises de contribuer, participation salariée et participation bénévole restant certes complémentaires. L'objectif d'une entreprise est de gagner de l'argent, de faire du profit. Il faut donc s'adresser à elle en termes économiques. Mathieu Fermant va démontrer pourquoi les contributions au libre sont très intéressantes économiquement pour les entreprises et représentent des investissements durables. Un développeur qui construit une solution logicielle, une application, ne crée pas tout ce dont il a besoin ex nihilo. Il utilise des librairies libres, certes gratuites, mais ont-elles un support ? Bénéficie-t-elle d'une maintenance ? En cas de bug dans le produit fini, si, en analysant ce bug, on découvre qu'il provient de l'une de ces librairies, il va falloir exécuter des corrections, peut-être de façon précipitée, puis maintenir cette librairie, voire faire des montées de version, et cela aura un coût pour l'entreprise, d'autant plus si ce code est critique et que les problèmes engendrés lui font perdre de l'argent. À partir du moment où ce code est nécessaire à l'entreprise pour son activité, Mathieu Fermant lui conseille de le traiter comme si c'était son propre code, ce qu'il est devenu puisqu'il tourne dans son application. L'entreprise doit en prendre soin, donc contribuer, afin d'assurer sa survie, mais aussi afin qu'il progresse. Avant d'être accepté, une contribution passe devant un processus qualité qui n'existe peut-être pas en interne dans cette entreprise. Lorsque le changement de code est validé, les mainteneurs en acceptent aussi le fardeau de la maintenance qui vient avec. D'autres développeurs vont donc maintenir ce code en échange de l'avoir donné au projet. Ainsi, en contribuant, l'entreprise bénéficie des processus de qualité et de maintenance, et ceci gratuitement. Pour un entrepreneur, c'est que du bonheur, affirme Mathieu Fermant. Avec ce mécanisme, vu que les contributions de toutes les entreprises sont mises en commun, chaque entreprise peut, en plus, récupérer l'intégralité du travail des autres. Ce qu'elle a investi est ainsi démultiplié, donc économiquement, là encore, c'est très intéressant pour son budget. Les entreprises qui contribuent ne le font pas par bonté d'âme. En contribuant, en faisant du code, leurs développeurs et développeuses interagissent avec d'autres personnes, deviennent peut-être des mainteneurs, font de la revue de code, puis participent à la gouvernance du projet. Du coup, une telle entreprise acquiert une légitimité et une expertise qu'elle peut monétiser. En affirmant « je connais très bien le domaine, je suis un expert », elle pourra vendre son propre produit plus cher que ses concurrents. Quand les développeuses et développeurs s'investissent, contribuent régulièrement à un projet libre qui est nécessaire à leur entreprise, au fur et à mesure, elles et ils commencent à être connus, à faire partie de la communauté. Il est alors courant qu'on leur demande de faire partie du groupe de mainteneurs de ce projet libre. Si certains de ses salariés endossent ce statut de mainteneur, l'entreprise acquiert une sorte de pouvoir d'influence, est en capacité d'orienter la direction que prend ce projet. Cela devient très intéressant, d'autant plus si ce projet est un projet critique pour elle. Encore une raison très importante pour les entreprises de contribuer au libre. Certes, comme tout groupe d'humains qui travaillent ensemble, comme dans toute gouvernance de projet, des désaccords existent. Mathieu affirme que le jeu en vaut la chandelle, c'est-à-dire que les avantages et les intérêts dépassent largement ces petits tracas. Développeuses et développeurs, n'hésitez pas à participer à des projets libres à titre individuel. Cependant, comme le suggère dans cette conférence de Mathieu Fermant, dont nous vous conseillons de lire, voire relire la transcription, convaincre les entreprises de donner à leurs salariés des missions pour contribuer à des projets libres sur leur temps de travail permettra d'obtenir des contributions plus régulières, plus poussées et pérennes dans le temps. Objectif noble que de préserver et améliorer l'ensemble de l'écosystème du patrimoine commun, logiciel libre.
C'était une nouvelle chronique de Mario Dille, lue par Mario Dille Morandi, lue par Elodie Daniel. Donc je vous invite, si ça vous a inspiré, à aller vraiment aussi regarder la source de cette transcription.
Nous sommes de retour, donc en direct ce 14 novembre 2023, et nous approchons de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, dans les annonces de fin, bah, comme chaque premier vendredi du mois, la radio vous propose une soirée radio ouverte dans les studios de la radio, donc au 22 rue Bernard-Dimet dans le 18e à Paris. Donc la prochaine aura lieu le vendredi 1er décembre 2023 à partir de 19h30. Plus proche de nous, en fin de semaine, les 18 et 19 novembre 2003, la prise sera présente à Capitole du Libre à Toulouse, l'un des événements les plus importants dans le monde du logiciel libre francophone. Nous aurons un stand et notre présidente Bouquinette, qui est à régie actuellement, donnera deux conférences donc à Toulouse dans le cadre du Capitole du Libre. La semaine suivante, le samedi 25 novembre 2023 de 14h à 19h à Marseille, il y aura une install party de système d'exploitation libre. Et puis le 24 octobre à Vernon, il y aura qui est dans Normandie, excusez-moi, je cherchais, il y aura une fête d'installation et d'aide à la résolution de petits problèmes informatiques. Et ensuite, le prochain gros événement, on en a parlé tout à l'heure dans l'émission, dans le sujet principal, c'est Open Source Experience à Paris les 6 et 7 décembre 2023. Alors nous aurons également un stand et nous donnerons aussi une conférence, notamment ma collègue Isabella Vanni qui donnera une conférence. Voilà, vous retrouverez les références sur le site de l'émission du jour libravou.org/191 ou sur le site de la radio causecommune.fm. En parlant de la radio, je cite un petit peu, mais la période est difficile pour la radio et nous avons besoin de vous. Comme je vous le disais en début l'émission, la radio fonctionne grâce à l'engagement de bénévoles, sans aucune personne salariée, mais bien sûr des frais de fonctionnement, ne serait-ce que le studio, la diffusion en FM et en DAB+. Une subvention qui tarde à arriver, c'est la seule que la radio sollicite, celle du ministère de la Culture via le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Nous refusons la radio, refuse d'avoir recours à d'autres subventions, notamment locales et régionales, pour garder sa liberté de parole et sa liberté éditoriale. Malheureusement, une augmentation progressive des charges ces deux dernières années a eu raison de la trésorerie de la radio, en attendant là le versement de la subvention attendue. Cause Commune fait donc face actuellement à de gros soucis pour payer les factures de fin d'année et de début d'année 2024. Nous vous encourageons donc, si vous le pouvez, à faire un don pour permettre à Radio Cause Commune de continuer à exister, et incidemment pour nous permettre à nous de continuer à vous proposer notre émission sur les libertés informatiques auprès d'un très large public. Pour nous aider, rendez-vous sur le site causecommune.fm et cliquez sur le bon don d'appel à don. Vous pouvez le faire, l'émission va se terminer dans quelques instants, vous pourrez le faire juste après. Merci à vous. Et si vous ne pouvez pas faire un don, vous pouvez aussi relayer la campagne. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Florian Lénez, Jean-Christophe Bequet, Marie-Odile Morandi, Laure-Élise Daniel. Manuel de la régie aujourd'hui, Magali Garnero. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Girondon, Languin, Julien Haussmann, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets des émissions en podcast individuel par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libravou.org toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio causecommune.fr. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer si tout vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions, nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact@libravou.org. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la voix des possibles, et si vous pouvez, faire un don également. N'hésitez pas. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 21 novembre à 15h30. Le sujet principal sera animé par mon collègue Étienne Gonu, qui vous donne rendez-vous au Café Libre, et sa brochette de libristes qui discuteront de l'actualité du logiciel libre. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 21 novembre. Et d'ici là, portez-vous bien.